C'est l'heure du LEM, l'émission quotidienne de Transistor du lundi au vendredi. Bretagne vivante, conservatoire d'espaces naturels. Bretagne nous raconte aujourd'hui le puffin des Baléares.
LEM, l'émission sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Magazine, et une dernière pour la saison, il y en aura d'autres sans doute à la rentrée, on espère en tout cas. On retrouve notre partenaire, le Conservatoire d'Espaces Naturels Bretagne, qui est le nouveau nom de Bretagne Vivante, et sa galerie de non-humains à découvrir, pour s'étonner, pour s'émerveiller et pour les protéger aussi. Car les végétaux comme les animaux sauvages subissent l'invasion humaine dans tous les recoins de la planète. Nous sommes une espèce invasive, et oui, mais comme il paraît qu'on est aussi intelligent, parfois on se rend compte de notre impact et on essaie d'inverser la tendance avant qu'il soit trop tard. La tâche est immense, certaines espèces deviennent étroitement liées à notre mode de vie, comme le goéland, dont on a parlé récemment. Mais je crois que ce n'est pas du tout le cas de notre oiseau du jour, que nous présente notre invité Yves Le Bail, naturaliste ornithologue de Bretagne Vivante. Bonjour.
Bonjour.
Vous allez nous faire découvrir donc un oiseau dont je crois on n'a pas encore parlé sur cette antenne. C'est le puffin des Baléares, et on va peut-être tout simplement commencer par l'écouter puisqu'on a un son de ce puffin. Alors Yves Le Bail, quand on en discutait, c'est très rare d'entendre les puffins en vrai, c'est ça ?
Alors là, c'est le cri, c'est pour marquer le territoire, attirer le partenaire, et ça se fait sur les sites de reproduction. Et comme son nom l'indique, le puffin des Baléares niche aux Baléares, donc dans la Méditerranée, et il vient nous rendre visite plus tard, après la reproduction, et à ce moment-là, il est quand même moins loquace.
Oui, et puis alors il n'a pas l'air content celui-là. Enfin, il y a plein de puffins des Baléares, Puffinus mauritanicus, sur le site internet Xenocanto. Et ces sons-là ont été captés par Eloïsa Mathéou, qui s'est approchée d'Eni sans doute pour avoir ces sons-là.
Oui, ces sons-là sont pris directement sur les sites de reproduction. Et puis alors c'est vraiment dans l'Eni, puisque c'est un oiseau qui va utiliser un terrier ou une anfractuosité pour faire son nid. En fait, on ne le voit pas. Il touche terre la nuit et il va se mettre dans un terrier pour nicher. Donc c'est vraiment hyper discret, même sur les sites de reproduction.
L'intérêt de faire une émission sur le puffin. Alors, est-ce qu'on peut le décrire déjà, Puffinus mauritanicus, qu'est-ce que c'est comme type d'oiseau ?
Alors, c'est un oiseau de mer, même un oiseau de haute mer. Il ne touchera terre que pour se reproduire. Et comme souvent les oiseaux de mer, ils sont assez peu colorés. Et celui-ci, il a même la particularité d'être même pas très contrasté. C'est-à-dire qu'il va avoir un ventre marron pâle, un peu sale, et le dos marron sombre, un peu plus sombre.
Donc, son cri et son apparence, c'est pas très sexy. le pauvre.
D'où probablement le déficit de notoriété qu'il a, quoi. C'est pas l'oiseau qu'on va mettre sur les cartes postales en premier.
Et en termes de silhouette, c'est plutôt proche de, je sais pas, de la mouette ou plutôt d'un canard. Enfin, ça.
Alors, c'est un oiseau qui serait de la famille de l'albatros, si vous avez déjà vu ça.
C'est gracieux en vol, un abricot.
Oui, mais ce sont des oiseaux qui sont faits pour le vol et qui ont donc des ailes assez longues, étroites, et qui ne battent pas tout le temps des ailes. Donc quand on les voit en mer, souvent en fait ils sont en vol plané au ras de l'eau ils sont par contre extrêmement gracieux en vol. Oui.
Mais ils sont pas aussi grands que les albatros peut-être.
Ah non, ils sont beaucoup plus petits. C'est un peu plus petit qu'un goéland.
Et il y a une différence entre les mâles et les femelles ou pas tellement ?
Alors là, pour le coup, moi, je ne la vois pas. Il y en a probablement une, mais moi, je ne suis pas capable de la faire.
Et il y a d'autres puffins ? Enfin, il y a combien de sortes de puffins ?
Alors, combien de sortes de puffins ? Je ne saurais pas vous
dire. Ceux qu'on connaît, en tout cas, ceux que Bretagne Vivante connaît.
Mais ceux qu'on peut voir relativement régulièrement dans le sud de la Bretagne, ça va être le puffin des Anglais, puisqu'il y niche. Il niche sur quelques îlots dans le sud de la Bretagne, dans le nord aussi, d'ailleurs. Et donc celui-ci, il est vraiment blanc et noir, il est vraiment très contrasté. Ensuite, on va trouver donc le puffin des Baléares, mais on va trouver aussi des puffins fuligineux, puffins majeurs, qui sont des oiseaux qui traversent l'Atlantique pour venir nous rencontrer. Et il y en a encore plein d'autres qu'on peut voir occasionnellement. Parce que ce sont des oiseaux de haute mer qui adorent voler, donc en fait ils peuvent parcourir d'immenses distances, ce qui fait qu'on n'est jamais à l'abri d'une surprise d'un puffin qui vient de l'Atlantique, du Pacifique ou de l'océan Indien.
Donc ce sont des grands voyageurs, enfin ce qu'on appelle des oiseaux migrateurs si on veut, enfin, c'est ça je pense.
C'est ça, ce sont des oiseaux qui migrent c'est pour ça qu'on est concerné nous en Bretagne, c'est que même s'ils se reproduisent dans les Baléares, en fait ils vont faire le tour de l'Espagne parce qu'ils n'aiment pas voler au-dessus des terres. Et pour venir, juste après la reproduction, dans le sud de la Bretagne, pour y faire leur mue, c'est-à-dire perdre leurs plumes et refaire un nouveau plumage.
Alors le cycle de vie, partons de la naissance du puffin, le poussin survit, qu'est-ce qu'il fait ?
Alors le puffin survit, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il va suivre ses parents sur la première migration, dès la première année, il va suivre ses parents et donc, il va passer l'hiver entre dans le golfe de Gascogne, quoi, si vous voulez, le sud de la Bretagne jusque l'Espagne. Et certains vont même aller jusqu'en Manche et en mer du Nord, mais quelques-uns seulement. Et là, par contre, j'ai un petit...
Donc là, c'est plutôt vers l'automne, enfin, parce qu'ils naissent, les poussins, ils naissent quoi, en été, au printemps
C'est ça. En fait, alors, je ne me souviens plus du temps d'incubation, mais globalement, les œufs, c'est pondu à peu près à Pâques. Hein, et donc, ensuite, on va avoir peut-être un mois d'incubation. Alors, quand je dis les œufs, c'est pour toute la colonie. Hein. Chaque couple de puffins, chaque femelle, ne pondra qu'un seul œuf par an, et encore pas tous les ans. Ce sont des oiseaux qui vivent plus d'une trentaine d'années, et donc ils économisent pas mal de ressources pour ne faire qu'un seul œuf et s'occuper assez bien de leurs jeunes.
Donc là, le jeune puffin adolescent reste encore un peu avec ses parents, c'est ça ? Enfin, ils vont rester un peu tous en clan familiaux ou pas ?
Alors, même plus que ça, en fait, après la reproduction, ils vont faire des groupes de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de puffins qui vont voyager ensemble.
Ah oui, toujours, toute la vie, quoi. Enfin... Alors, a priori.
Là, pour le coup,
c'était
en fait,
difficile de le savoir.
Ouais, c'est ça, c'est assez difficile de le savoir. On commence les études avec du balisage GPS, mais pour le moment, on n'en est pas encore là à savoir si les groupes restent. Ce sont des groupes stables ou si, on peut aller changer de groupe facilement. Ça, on n'en est pas encore là.
Donc, le puffin des Baléares naît aux Baléares et naît dans une forme de nid souterrain, c'est ça ?
C'est ça, les parents utilisent un terrier pour faire leur nid.
Ils creusent avec leur bec ?
Et ils creusent avec leurs pattes. Et ils creusent avec leurs pattes arrière. Vous savez pourquoi ?
Non.
Ah, parce qu'ils n'ont pas de pattes avant.
Leurs pattes arrière, oui, bah oui. Moi, je ne réagis même pas. Oui, un oiseau à deux pattes, je crois. Ça tombe bien.
Donc, ils peuvent creuser.
Ils pourraient creuser avec leurs ailes, mais oui. Bon.
Ouais. Non, pas terrible. Bof. En fait, faut pas, les plumes, c'est utile pour l'isolation et pour le vol. Et donc, il ne faut vraiment pas les user. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, ils en changent tous les ans pour éviter qu'elles soient usées à un moment donné. Quoi.
Donc, ils ont creusé leur nid, leur terrier, pardon. Un œuf... ou pas. Après, il y a dispersion pour passer l'hiver, on va dire, c'est ça ?
Ouais, même en fait, même le temps de l'incubation est rigolo, puisqu'ils ne touchent terre que la nuit. Donc en fait, on ne voit pas les échanges parce que mâle et femelle couvent à tour de rôle. Et après, quand le jeune est né, il faut le nourrir. Et c'est pareil, comme ils ne touchent terre que la nuit, ils vont faire ils vont pas revenir à terre avec du poisson dans le bec comme on peut le voir chez les sternes, chez les goélands. Mais ils vont revenir avec un concentré d'huile de poisson qu'ils vont donner à leur jeune.
Transformer dans leur gésier, enfin je ne sais pas s'ils ont un gésier,
On va plutôt utiliser le jabot. Le jabot, c'est la poche qui précède l'estomac et c'est là où c'est une poche qui fait réservoir. Quoi.
Donc huile de poisson pour le jeune et après l'adulte, sinon il mange quoi ?
Du poisson, principalement des petits poissons. Bah, d'ailleurs, en fait, c'est un peu pour ça qu'ils remontent le long de l'Espagne, c'est qu'ils suivent les bancs de sardines et d'anchois. Donc quand c'est la saison de la sardine, c'est aussi la saison du puffin.
Donc, chez nous, le puffin, où est-ce qu'il va ? Enfin, où est-ce qu'on pourrait le voir éventuellement si on a des bons yeux ?
Alors, c'est un oiseau qui va plutôt aller se nourrir en mer, voire en haute mer, mais qui va dormir posé sur l'eau. Et pour ça, il va se rapprocher des terres. Donc, si vous voulez le voir, le mieux, c'est de se mettre sur une pointe au lever du jour ou à la tombée de la nuit, et c'est là où on peut les voir passer. Il y a de bons regroupements pour ces dortoirs, justement, dans le Finistère, on en a pas mal autour de l'archipel des Glénans. Et pour nous, moi, ce qui me concerne, je suis dans l'équipe morbihanaise, on en voit pas mal en Estuaire-Vilaine.
Et donc les colonies, ils sont quoi, une centaine plus
Alors c'est ça qui est assez étonnant, c'est que c'est un oiseau qui est extrêmement rare de par le monde. Il y a quelques dizaines de milliers d'individus seulement. Et on a peut-être 60 ou 80% de la population qui va venir dans le sud de la Bretagne. Et donc on peut avoir des regroupements de plusieurs milliers d'oiseaux, ce qui représente des fois 5, 10, 15% de la population mondiale qui va être groupée par chez nous.
Ah. D'accord, voilà pourquoi le Conservatoire d'Espaces Naturels Bretagne s'y intéresse particulièrement. Enfin, oui. c'est pas la seule raison, hein, bien sûr.
C'est pas parce qu'on en voit 2-3, c'est qu'on a une responsabilité à l'échelle internationale pour la conservation de cet oiseau-là.
Et on sait ce qui leur plaît, c'est juste parce qu'il y a les sardines et les maquereaux.
C'est ça, en fait, au moment de la mue, ces oiseaux-là, ils vont avoir du mal à décoller. Parce que les plumes sont plus courtes, puisqu'ils sont en train de les changer, il faut que ça pousse. Et donc, comme ils ont du mal à décoller, ça leur demande énormément d'énergie chaque décollage. Et donc, il faut que le site d'alimentation soit pas trop loin d'un site de repos, d'où des zones un peu calmes, comme l'estuaire de la Vilaine, les Glénans, qui soient pas trop loin, justement, des bancs de sardines. Et donc, c'est ça qui fait l'intérêt du site pour ces oiseaux-là.
Et la température ambiante est importante, enfin le climat aussi éventuellement
Alors la modification du climat impacte tout le monde, et particulièrement tout ce qui est oiseaux piscivores, parce que vous imaginez que les poissons cherchent une température de l'eau qui correspond à un niveau d'oxygène, etc. Et que dès que la température de surface chauffe, et la quantité d'oxygène diminue en surface, et du coup les poissons vont plonger plus profond. Ce qui fait que certains oiseaux, comme par exemple les goélands qui ne plongent pas profond, vont être complètement privés de cette ressource-là.
Mais les goélands, ils peuvent se rattraper avec nos déchets, ce que ne fait pas le puffin.
Exactement. Et le puffin, lui, par contre, ce que ça va impacter... Alors en général, il aime bien plonger pas trop profond, mais sauf que si les poissons descendent plus, et bien ça va lui demander plus d'énergie pour récupérer la même chose que ce qu'il aurait eu s'il n'y avait pas ce réchauffement.
C'est ça.
Donc en fait, tout le monde est vraiment impacté avec ce réchauffement.
Et sinon, le puffin, il a quand même, je suppose, des prédateurs naturels
Alors, quand tu es en haute mer, c'est un des avantages, c'est qu'il y a assez peu de prédateurs. Ensuite, le jeune a très peu de chances de survie sa première année, mais par contre, je vous ai dit, hein, l'adulte, lui, va vivre jusqu'à 30-35 ans. En revanche, parmi les dangers qui guettent le puffin, c'est notamment sur les sites de reproduction, les rats, qui sont des espèces qui ont été introduites par les marins, pas sciemment, hein, mais c'est comme ça que ça se passe. Et ces rats-là vont manger les œufs, et ce qui fait que la réussite de la reproduction est assez faible sur ces îles-là.
Et il y a peut-être d'autres oiseaux qui mangent les œufs aussi, non
Justement, ça c'est l'avantage d'être dans un terrier, c'est qu'on limite les prédateurs, et du coup aussi le rat, lui, il va être très impactant.
Uh-huh. Et donc justement, alors on parle évidemment aujourd'hui du puffin des Baléares, parce que malheureusement c'est un oiseau en danger critique d'extinction. Alors on n'est pas aux Baléares, mais qu'est-ce qu'on sait des sites où ils nichent, comment se portent ces sites?
Alors là, je suis assez peu informé, je suis navré. Je sais que justement il y avait des rats. Je crois qu'il y a un effort de dératisation qui est fait dessus, et donc normalement on devrait pouvoir avoir de meilleurs résultats à la reproduction chez eux. Ensuite, il y a d'autres soucis. Hein. On a parlé un peu du réchauffement climatique et de l'accès à la nourriture, mais en fait, ce sont des oiseaux qui, comme ils sont pêcheurs, sont aussi victimes des moyens de pêche, les palangres, les filets, et donc ils se font attraper, dans nos engins de pêche. C'est des captures accidentelles. Et du coup, ça, c'est un autre problème qui est surtout, en fait, quand ils font le tour de l'Espagne, et nos collègues espagnols travaillent pas mal avec les pêcheurs, justement, pour mettre en place des contre-mesures pour éviter ces captures accidentelles.
Après, il y a la ressource qui va et qui vient. Enfin, la sardine, elle va pas toujours bien, je crois.
C'est pareil. Effectivement, ça, on maîtrise pas bien un peu les ressources de ces oiseaux-là. Et du coup, en fait, on voit aussi que le réchauffement climatique fait que les poissons plongent plus profondément, mais aussi la ressource monte plus au nord. D'où aussi le fait qu'on les trouve de plus en plus en manche. Ces oiseaux-là, c'est qu'ils vont de plus en plus au nord. Ce qui veut dire que leur migration est de plus en plus longue. Donc vous voyez, il faut plonger plus profond, il faut faire plus de voyages. Donc vraiment, on leur demande plus d'efforts avec moins de... Bah tiens, ça me rappelle l'économie chez nous.
En effet, ça nous dit quelque chose. Et il n'y a aucune chance, enfin évidemment, là, je fais de la spéculation, mais que le puffin puisse avoir l'idée d'aller nicher ailleurs qu'au Baléares pour se faciliter la vie, entre guillemets. On n'a jamais observé ça, je veux dire, un terrier.
Pas que je sache. Ensuite, il a bien fallu qu'à un moment, ils colonisent ces îlots-là. Donc oui, il y a des chances. Mais le problème, en fait, c'est que quand un milieu disparaît chez nous, en fait, il n'y en a pas un autre qui est créé ailleurs. Mmh. C'est un peu le problème majoritaire de la chute de la biodiversité. C'est pas tant la pollution, c'est vraiment la disparition des milieux. En fait, on joue aux chaises musicales. À chaque fois qu'on enlève quelque chose, eh bien, on ne remplace pas par autre chose. Les espèces qui disparaissent à un endroit ne vont pas se déplacer. Et si elles se déplacent, de toute façon, elles vont prendre la place d'autres espèces qui étaient ailleurs. Donc ça, c'est un peu le problème majoritaire de toute la biodiversité.
Et il n'y a pas eu de problème de grippe aviaire d'ailleurs, parce qu'il y a des, par exemple, le macareux a été très touché ou...
Alors chez ces oiseaux-là, j'ai pas de nouvelles. La grippe aviaire, elle a été quand même très forte dans le nord de l'Europe et je sais pas si c'est descendu jusqu'en Méditerranée. Là, pour le coup, j'ai aucune information.
Bon.
Par contre, il y a un autre souci qu'ils ont. Ces oiseaux-là, je vous ai dit qu'ils viennent ici pour se reposer. Et ils viennent après la reproduction, donc ce qui intervient, et on commence à voir les premiers qui arrivent.
Là maintenant. Quoi.
Voilà, là maintenant.
En juin.
En juin.
Okay.
Et ils vont rester jusque mi-septembre et voire un peu plus. Mais le gros de les troupes, c'est août-septembre. Et donc, c'est au moment aussi du pic d'activité des plaisanciers.
Ouais.
Exactement. En baie de Vilaine, autour des Glénans.
Alors, Glénans, le fait qu'on ait interdit maintenant, je crois, les jet skis, c'est une bonne chose quand même, tout ça.
Alors, je ne savais pas ça, mais oui, c'est de faire attention à comment est-ce qu'on utilise le plan d'eau, c'est une bonne chose. Parce que ces oiseaux-là, en fait, à chaque fois qu'ils décollent, je vous ai dit, ils prennent énormément d'énergie. Ce sont des oiseaux qui ne décollent pas comme les moineaux en sautant. Et eux, il faut qu'ils courent sur l'eau. Et donc, ça leur demande énormément d'énergie. Et en plus, comme ils sont en mue quand ils sont chez nous, ça leur demande d'autant plus de ressources. Et donc, quand on a énormément d'usagers autour des îlots pour de la balade, pour du jet ski, pour du kitesurf, etc., et qu'ils passent dans ces reposoirs d'oiseaux, on appelle ça des radeaux puisqu'ils se regroupent
pour
y dormir. À chaque fois qu'ils décollent, en fait, ces oiseaux-là vont dépenser une part d'énergie qui normalement devrait servir à la repousse des plumes, à préparer l'œuf de l'année prochaine. Parce que s'ils ne pondent pas tous les ans, c'est que les années où ils se sentent pas en forme, eh bien, ils vont pas le faire leur œuf.
Et c'est important. Ils sont en couple. Est-ce qu'ils restent en couple toute la vie, par exemple, comme certaines espèces d'oiseaux, les puffins?
Très probablement. En fait, la plupart des oiseaux de mer sont assez fidèles. La fidélité, c'est un super moyen d'être économe. Hein. Il n'y a pas besoin de...
Ouais, de rechercher un partenaire,
exactement,
de draguer, etc., de perdre son temps.
Exactement. C'est dès que les conditions sont requises, quand on est fidèle, on peut y aller.
Très bien. Alors, donc, on a compris que le puffin des Baléares n'allait pas fort et que Bretagne Vivante, conservateur d'espaces naturels de Bretagne, s'y intéressait pour cette raison. Alors, comment est-ce que vous faites, vous et vos collègues Yves Lebaille, pour déjà regarder, suivre et puis, je ne sais pas, sensibiliser peut-être aussi
Eh bien, c'est ça qu'on fait et c'est exactement ça. C'est-à-dire que la première des opérations qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de cartographier les sites où ils préfèrent venir. Alors pour ça, il y a deux méthodes. Il y a une méthode d'observation directe, c'est-à-dire qu'on prend le bateau et on note tous les endroits où on les voit.
Dans toute la Bretagne.
Alors non, on a fait ça particulièrement dans le sud. Donc je vous ai dit, hein, c'est vraiment autour des Glénans et puis en Estuaire-Vilaine, un petit peu aussi autour de Groix et Belle-Île. Et donc on note ça. Une deuxième méthode qui a été utilisée, c'est de poser un GPS dessus et puis de voir
donc
l'air.
On note les radeaux alors plutôt, c'est ça.
On note la présence. Juste, en fait, là où on les voit en pêche ou en train de se poser pour dormir. Donc on fait les deux.
D'accord.
Et on fait ces observations, je vous ai dit, depuis un bateau, mais on peut en faire aussi en Loire-Atlantique. C'est fait pas mal depuis les pointes. Donc le matin, le soir, il faut venir au moment du lever ou du coucher du soleil et puis noter tout ce qui se passe, combien on en voit et quelles sont les zones qu'ils utilisent.
Ouais, c'est pas trop en journée en fait ce travail.
En journée, ils vont aller plus s'alimenter et donc aller plus loin en mer. Et donc ensuite, la journée, quand ils ont fini de manger, ils reviennent, quelle que soit l'heure.
Oui, mais il ne laisse pas trop de traces visibles puisqu'il vit sur l'eau. On ne peut pas regarder les crottes de puffin ou je ne sais pas quoi.
Enfin. Ça, on n'a pas. Non. Ni les crottes, ni les pelotes de réjection, on ne peut pas.
Ils ont aussi des pelotes de réjection.
Oui, oui. Mm-hmm. Comme la plupart des oiseaux piscivores, en fait, ils vont, les arêtes, ce n'est pas super à passer dans le tube digestif, donc il vaut mieux que ça ressorte par le bec directement.
D'accord, oui. Donc tout ça, on ne les retrouve pas parce que c'est dans l'eau.
Oui, c'est ça.
Et donc, il faut les observer directement. Pour ne pas trop s'approcher, il faut un matériel spécifique pour les observer ou...
Alors, on estime que quand on... Bah, nous, on prend des jumelles, hein, c'est pas mal. Et, quand on est à moins de 300 mètres, on commence à avoir une interaction avec eux à plus de 300 mètres. Et 300 mètres avec des jumelles, c'est tout à fait jouable de les observer. À condition qu'il n'y ait pas trop de houle et de clapots. Parce qu'en fait, comme ce sont des oiseaux qui sont posés sur l'eau, dès que vous avez un peu de clapots, ils sont beaucoup moins faciles à détecter.
Ah oui, on les voit pas ?
Bah, on les voit moins.
Ouais, d'accord, je vois. Ouais, ok. Je ne vois pas. Et donc, vous les donc Bretagne Vivante les compte, ok. Et puis, est-ce que de temps en temps vous faites des bagages ? Enfin, vous en attrapez un ou deux.
On a fait ça un peu à une époque avec l'OFB notamment pour essayer de voir un peu quels étaient les déplacements de ces oiseaux-là et comment ils utilisaient le plan d'eau chez nous. Et ça a été, les premiers résultats ont été une assez mauvaise nouvelle puisque ils utilisent le même plan d'eau que nos plaisanciers au même moment.
Ah ouais, mauvaise idée.
Ouais, c'est ouais. Ça. Et probablement, c'est aussi des modifications des parcours des sardines. Elles se rapprochent plus de la côte et du coup, en fait, quelque chose qui autrefois était plus... il y a moins d'interactions, ils se rapprochent plus et il y a plus de plaisanciers. Donc, en fait, on a des interactions qui sont de plus en plus importantes. Et c'est là où, en fait, on va faire notre deuxième action, c'est-à-dire d'aller rencontrer les plaisanciers, de leur distribuer des petits prospectus et de leur expliquer un peu la vie de ce pauvre oiseau et que nous, à notre échelle, ce qu'on peut faire, c'est le préserver pendant qu'il se repose.
Alors justement, ce petit prospectus, qu'est-ce que vous expliquez aux gens ? Comment est-ce que vous faites, en fait, pour sensibiliser les gens ?
Eh bien, en fait, on va justement rencontrer les plaisanciers, on fait le tour des capitaineries, on fait le tour des loueurs de bateaux, et puis on vient aussi directement voir les plaisanciers sur les sites où ils peuvent croiser ces oiseaux-là. Et en général, on va aborder ceux qui sont au mouillage pour discuter de leurs pratiques. Et on fait ça, c'est plutôt convivial. Hein.
Oui, oui.
On n'essaye pas, pour donner des leçons, non. Mais plutôt pour dire, nous, il y a une action qu'on peut faire, qu'on peut mettre en place pour préserver cet oiseau-là, c'est-à-dire être un peu attentif à ce qui se passe sur l'eau et puis de se dérouter quand on voit un radeau pour éviter que tout le monde s'envole.
Et mais alors, c'est, évidemment, il y a plusieurs sortes de plaisanciers. Il y a les plaisanciers qui se promènent, puis il y a les plaisanciers qui pêchent. Enfin, ils pêchent pas trop la sardine, peut-être.
Ouais. Alors, les plaisanciers, tous ont un lien. En fait, on est plaisancier souvent, c'est parce qu'on aime le contact avec la nature. Et la plupart du temps, les interactions qu'on a avec cette bestiole-là, quand on la fait décoller, c'est pas par malveillance, c'est par méconnaissance.
Mmh.
Et du coup, c'est extrêmement rare d'avoir un mauvais accueil. Alors c'est vrai que quand vous parliez des pêcheurs, souvent en fait quand y a les écolos qui arrivent, ils aiment pas trop parce que qu'est-ce qu'on va encore pas avoir le droit de faire. Et c'est quand même assez rigolo parce que à discuter, on se rend compte que très souvent en fait on a des objectifs communs et que en fait on peut travailler ensemble dans le même sens quoi.
Et donc ça vous faites ça, vous allez voir donc les plaisanciers puisque c'est un oiseau qui est vraiment essentiellement en mer. Vous allez pas trop voir les gens sur la côte, sur les plages. Enfin c'est.
On le fait un peu parce qu'en fait on travaille sur plusieurs autres espèces qui sont des oiseaux nicheurs de chez nous. Je pense aux gravelots à collier interrompu, je pense aux huîtres épis, aux cormorans huppés, aux trois espèces de goélands. Et ceux-là, les gens qui sont à pied peuvent avoir une interaction. Donc en fait on essaye de préserver tous ces oiseaux-là, et de les préserver en tout cas du dérangement qui est un problème. Parce qu'en fait, la plupart des gens qui vont sur les plages où il y a des gravelots, qui vont débarquer sur un îlot où il y a des goélands à nicher, imaginent que leur impact est assez mineur, puisqu'il ne reste qu'un quart d'heure. Et ils ont raison là-dessus. Le problème, c'est qu'ils sont pas les seuls à le faire.
C'est ça.
Et que du coup, et c'est exactement comme d'ailleurs un bateau qui traverse un radeau de puffins. Bon, Ils ont décollé, un oiseau s'est fait pour voler, ça décolle, c'est comme ça. Le truc, c'est que quand les décollages sont répétés, et que c'est pareil sur un site de reproduction, quand les oiseaux stressent parce qu'il y a un prédateur potentiel dans le coin, une fois, c'est pas très grave, mais à force, le stress ne redescend pas, et ça peut avoir des impacts sur la reproduction, voire même sur la vie directe des oiseaux qui sont là, quoi.
Mmh. Et on sait que... Donc, il est en danger critique d'extinction, ça veut dire quoi, en fait, concrètement, en termes d'effectifs? Par exemple, dans là, les observations que vous avez ces dernières années à Bretagne vivante...
Alors, les populations sont assez stable, mais je vous ai dit que ça vit très longtemps. Résultat, en fait, ça va pas chuter comme ça. Mais on peut imaginer que comme les succès reproducteurs sont faibles et qu'il y a de la mortalité qui est liée au stress en mer à cause des dérangements ou alors aux prises accidentelles liées à la pêche, eh bien, en fait, on a une survie adulte qui est moindre. Et ça, c'est vraiment, vraiment mauvais parce que là, au bout d'une génération, donc au bout de 30, 40 ans, il serait possible qu'on n'en trouve plus.
Ah oui, donc dans bientôt, quoi.
Voilà, c'est ouais, ça. Ouais. C'est que là, la dynamique que l'on observe nous donne cette fourchette-là, c'est que d'ici 40 ans, si la dynamique ne change pas, il n'y en aura plus.
Donc, on n'épuise pas les... Puis fin des baies, les arts, on fait attention quand on navigue.
C'est exactement ça. Et si vous voulez aller les observer, Bretagne Vivante, conservatoire des espaces naturels de Bretagne, propose 4 sorties au départ du Morbihan. Vous pouvez vous renseigner sur le site du Conservatoire des espaces naturels de Bretagne. Il y aura toutes les informations. Si vous voulez, je peux vous donner les dates.
Oui, éventuellement.
Donc il y en aura une le 8 août, le 23 août et le 20 septembre au départ de Locmariaquer et une le 2 septembre au départ de Lorient.
Bon. Ben voilà, ben ça, c'est pas tout prêt, mais enfin ça va, on peut y aller, puis on a le temps d'y réfléchir, surtout faut réserver sa place.
Pour réserver sa place, c'est une sortie à la journée,
Ouais. Très bien, ben merci beaucoup Yves Le Bail, et puis merci à Bretagne Vivante, Conservatoire d'Espaces Naturels Bretagne, dont on peut réécouter toutes les émissions réalisées cette saison, et très certainement la saison prochaine. Merci, au revoir.
Merci beaucoup.